Michael Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Mais écoutez, vous êtes venu ce matin avec un grand plaisir nous présenter votre livre « Omicron ». J'ai appris grâce à vous qu'elle était la 15e lettre de l'alphabet grec.
Voilà, exactement.
On va découvrir pourquoi et comment, bien évidemment, pourquoi ce titre, aux éditions Ramsay. Alors, si vous le voulez bien, avant d'ouvrir le débat et de comprendre comment vous êtes devenu romancier,
oui.
Je vais vous dire ce que moi j'ai pensé de votre livre.
Très bien, je vous écoute.
Alors, ce premier roman de Michael Hirsch est un beau coup de maître puisqu'il apporte un souffle nouveau dans le monde figé de la littérature. Et actuellement, vous le savez tous, c'est le Salon du Livre de Paris qui se tiendra jusqu'à mardi soir. Alors, ce livre dérange. Il va même rendre fou le lecteur par tant de vérité et de sarcasme qu'il apporte, mais toujours avec grâce et subtilité. Ça, il faut le reconnaître, vous avez ce don un petit peu tendancieux, on va dire, qui frôle entre l'acceptable et le non acceptable. De Thomas Terrain, donc votre héros, est un raté. Il gâche sa vie, mais un jour, il pense avoir trouvé le bon filon pour percevoir un salaire sans trop se fatiguer. Alors, avant de vous expliquer le comment du pourquoi, revisitons un peu le quotidien de ce jeune homme qui voue une passion invétérée à Heinrich Reis, sur lequel il a rédigé une thèse. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais Heinrich Reis aurait eu, une relation... toujours, hein, assez tendancieuse avec un autre homme.
Voilà, une relation amicale, professionnelle et plus aussi affinité avec un philosophe allemand qui est donc Arthur Schopenhauer.
Voilà. Alors, ce boulot, donc, le boulot de Thomas Terrain, chez cet homme, on va dire un homme un peu véreux, très arrogant et imbu de sa personne, devait être confortable et presque trop simple au départ. Mais une drôle de relation s'instaure entre eux, qui commence comme un lien entre un employé et son employeur, et qui dérive assez facilement et assez rapidement comme une relation de maître à esclave, alors orchestrée par un maître de cérémonie. C'est un petit peu, on va dire, l'homme à tout faire de Zabot, qui est autoritaire et un peu glacial. Je vous dis pas comment il reçoit, et quand il referme la porte derrière lui, on sent que le couperet tombe. Alors, mais Thomas s'éloigne au fil des rendez-vous de son objectif premier, et finalement, il sautera sur l'occasion pour voler de ses propres ailes, pour écrire un livre qui lui sera finalement fatal. Alors, mais pourquoi autant d'intérêt autour du livre de Thomas? Ça, on va le découvrir avec vous, Michael. Mais finalement, moi, j'aimerais poser la question suivante. Pourquoi les services secrets s'intéressent-ils de trop près à un phénomène qui aurait dû rester très anodin? Mais Michael traite toujours avec humour et dérision ce parcours d'espion surréaliste. Alors, les jeux de mots et d'esprit ne manquent pas. Ils apportent tout un sens à cette aventure qui frôle le rocambolesque et le pur moment de délice. Alors, si vous avez envie de découvrir une autre alternative littéraire, je vous invite donc à lire très rapidement l'ouvrage de Michael, avec lequel ma nuit a été à la fois désorientée et amusante. En toute honnêteté, cela faisait longtemps que je n'avais pas savouré un aussi beau moment littéraire, à juste titre, puisque vous, Michael Hirsch, vous êtes un orfèvre qu'il faut lire sans aucune modération. Alors, dans l'attente de vous lire dans un autre opus, parce que moi, vous savez, je suis avide de littérature et d'ouvrages, donc j'attends le prochain opus avec beaucoup d'impatience. Découvrons avec vous pourquoi la 15e lettre de l'alphabet grec est-elle si importante à vos yeux.
Ce personnage qui vit un peu comme une espèce d'amibe ou de parasite dans les bas-fonds de la société du spectacle, puisqu'il est à la fois copiste, nègre, vaguement écrivain, enfin pigiste.
Il vit également au crochet de sa famille, hein, il faut le dire aussi. Hein.
Non, il vit pas au crochet de sa famille.
Il en a besoin de temps en temps.
Non, il se débrouille tout seul, mais il se débrouille avec très peu de choses. Il se contente de très très peu. Il vit en sous-location dans un studio qui est pas à lui. Il a pas de fiche de paye. Il est payé au noir. Lui, quand il sort pour aller au supermarché, il fait ça la nuit ou à la tombée du jour pour pas être repéré par ses voisins. C'est quelqu'un qui essaye en fait de disparaître complètement de la société.
D'ailleurs, même quand on va au café, on l'appelle jamais par son prénom.
Voilà, il utilise un pseudo pour qu'on le reconnaisse pas. Il a une espèce de phobie un peu comme ça, de paranoïa aiguë qui le pousse à se recroqueviller le plus possible. Mais c'est parce qu'il est persuadé finalement que dans la société du spectacle triomphant, dans la société de la Star Academy où tout le monde cherche à devenir une star, tout le monde veut passer à la télé, avoir son quart d'heure de gloire warholienne. Lui pense qu'il doit y avoir une espèce d'équilibre global qui fait que des gens comme lui doivent au contraire choisir de disparaître, de se recroqueviller le plus possible pour offrir une espèce d'équilibre à l'univers d'une certaine manière.
Oui, alors quel équilibre, dirais-je ? C'est vrai que vous y avez mis finalement toute votre foi, parce que moi j'ai autant ri que j'ai ressenti une émotion des fois, quelquefois grave. Mais il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de sarcasme, il y a beaucoup aussi de mettre les barres sur les T sur cette littérature qui afflue énormément actuellement. Et finalement, quelque part, vous remettez certaines pendules à l'heure.
Oui, alors mon ambition à l'origine, c'était pas de faire un portrait vitriol du monde de l'édition ou de la littérature. Ce qui était important pour moi, c'était de faire vivre un personnage dont la particularité est de suppléer finalement au déficit des autres. Lui, c'est le remplaçant. Il est nègre parce que des gens veulent écrire mais ne savent pas le faire. Mais à la limite, il aurait pu être remplaçant sur le banc de touche dans un match de foot. Ou si l'histoire s'était passée au 19e siècle, il aurait pu être souffleur dans un théâtre, par exemple. C'est une profession qui a disparu. Mais c'est tout à fait le même, la même valeur, si vous voulez, dans la société. Et de fil en aiguille, comme lui, finalement, il est plus ou moins écrivain, donc j'en suis venu à parler du monde de l'édition, du monde de la littérature, des écrivains. Et comme j'ai pour ambition d'être un minimum honnête et lucide vis-à-vis de la réalité, bon, ben j'ai dit des trucs qui font pas forcément plaisir à tout le monde, voilà.
Oui, ça c'est clair, c'est clair. On va mettre les deux pieds dedans parce que dès les premières pages, d'abord votre personnage a un don, c'est qu'il arrive à se dissocier. C'est-à-dire qu'il y a lui et il y a également l'autre personnage. On a l'impression qu'il y a une double identité.
Voilà, il est à la fois complètement parano et aussi complètement schizophrène, mais parce que je voulais que ce soit un personnage qui soit le pur reflet finalement des travers de la société moderne. Il est le fruit du monde dans lequel on vit et donc à travers lui, on aborde un peu les problèmes du monde contemporain. Donc il est à la fois paranoïaque, il est schizophrène parce qu'il se prend à la fois un peu pour un autre. Il pense être le double ou la réincarnation donc d'un type qui lui-même était nègre à son époque, donc à la fin du 19e siècle, et dont d'ailleurs l'existence n'est pas véritablement prouvée d'aucune manière.
Et puis Schopenhauer n'avait pas l'impression de vivre auprès de cette personne.
C'était quelqu'un qui était dans son entourage, mais qui lui a pas accordé une importance très importante. L'intérêt aussi de Steren, c'est de se pencher sur un personnage qui a presque pas existé finalement. Il essaie d'en faire le portrait en creux à partir de bribes qu'il a recueillies dans des archives, dans les bibliothèques.
C'est presque un agent dormant.
Oui, c'est ça. C'est lui-même se voit un peu comme une espèce de sous James Bond de pacotille, et il s'est passionné pour un personnage qui lui ressemble ou dont il se sent proche, voilà. Et à travers sa propre histoire, il va essayer de revivre l'histoire de la personne qu'il fascine.
Alors déjà dans le nom Thomas Terren, il y a quand même une belle symbiose puisque le prénom de Thomas terminant par un S et le nom de famille commençant par un S.
Oui, c'est presque un seul mot. Oui.
Voilà, exactement. Donc déjà, il y a une sonorité, il y a quelque chose qui claque déjà dès le départ. Donc on a l'impression qu'il est entier alors que finalement il est scindé en deux.
Voilà, il est un et il est deux à la fois. C'est tout à fait ça.
Alors justement, revenons un petit peu donc sur ce Thomas Terren. Moi, je dis qu'il a un peu raté parce que bon, il a envie de disparaître comme vous le disiez, mais en même temps, il a envie d'exister. Donc, il va exister par l'intermédiaire de ce Zabo, c'est vrai que c'est un personnage un peu à la fois fantasmagorique, parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent, il a une notoriété, il a une place assez conséquente dans la société. Et puis finalement, lui, il arrive, c'est comme un petit rat de bibliothèque, il va faire tout le boulot à sa place. Alors, c'est vrai qu'au départ, donc, tout se passe bien, les relations sont très amicales. Puis d'un seul coup, on tombe presque dans la barbarie, du harcèlement moral. Et finalement, chacun se complaît dans son personnage et dans sa vie de tous les jours, jusqu'au jour où... Alors ce jour-là va arriver avec beaucoup d'espoir. Je ne sais pas si de l'un et de l'autre, on avait pensé à ça. Quoique, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Il y a des interrogations qui sont placées au fil de la lecture. Mais en tout cas, ce personnage qui aurait dû être finalement... qui aurait dû passer par une porte et en ressortir par une autre sans qu'on puisse le voir ou sans qu'il puisse exister, à un moment, il vit. Et là, vous lui donnez une consistance vraiment réelle. Parce qu'il peut s'affirmer
dans
quelque chose.
Oui, comme il est double à tout point de vue, à tout niveau. Donc... Il veut à la fois disparaître et puis il est déchiré par cette espèce d'ambition que tout le monde a de vouloir exister, de vouloir être sur le devant de la scène. C'est quelque chose qu'il a réussi à contrôler jusqu'alors et puis par la force des choses, par la confrontation qu'il va avoir avec le monde du travail, il va finalement basculer dans l'excès inverse parce que c'est quelqu'un de complètement radical. Même quand il ne fait rien, il le fait radicalement d'une certaine manière. Donc voilà, il va exploser en sens inverse. Après l'implosion va venir l'explosion. Mais il faut rappeler quand même dans quelles circonstances il rencontre ce personnage.
Oui,
il répond à une annonce
dans un journal,
une annonce à laquelle il ne comprend absolument rien d'ailleurs, et il va se retrouver embarqué un peu malgré lui de manière extrêmement passive. Les psys appellent ça les passifs agressifs, vous savez, ce genre de personnages qui à la fois ne font rien mais boycottent absolument tout, sont contre tout en permanence.
Et là vous reprenez les clichés qui se trouvent actuellement dans tous les journaux quand on passe des annonces. Alors on écrit un maximum de choses dans un minimum avec un minimum d'espace.
Voilà,
d'espace.
On utilise des abréviations, alors il faut interpréter un peu ce que ça veut dire. Lui il a sa propre interprétation mais qui est pas forcément celle de la personne qui a écrit l'annonce, et donc il va se retrouver confronté à ce type qui est à la fois un peu mystérieux, qui une espèce de millionnaire qui vit dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, ouais, qui vient de Hongrie, on ne sait pas trop de quoi il vit, bon, manifestement il a beaucoup d'argent, et ce type va lui demander finalement un truc incroyable, c'est d'avoir des loisirs à sa place.
Oui.
Voilà. Donc, encore une fois, il va suppléer au déficit de quelqu'un, mais dans une perspective complètement rocambolesque.
Alors c'est vrai qu'au départ, pour lui, c'est l'euphorie, hein. C'est-à-dire, oh, je vais aller au théâtre, je vais aller au cinéma.
Il vivait de pas grand-chose. Il se dit, ah, je vais enfin pouvoir être autonome financièrement, en ayant
plus,
des loisirs.
Pour un salaire de 150 euros par semaine.
Oui, alors c'est pas terrible, mais comme lui, il part de quasiment rien. Il voit tout là une énorme somme d'argent pour lui.
Oui,
c'est clair.
Et puis en plus, il a tous ses frais qui sont.
Voilà,
remboursés.
Il a des notes de frais. C'est formidable pour lui.
Alors Joseph lui rappelle exactement qu'il doit les apporter chaque fin de mois, et il sera payé le mois d'après.
Voilà, tout à fait, il y a des règles, hein. Il faut apporter des justificatifs, ouais. Tout ça c'est très sérieux, c'est pas du tout, on ne traite pas ça à la rigolade.
Non, bah, écoutez, on est dans le beau monde, on ne parle pas avec n'importe quoi, et puis dans ce monde-là, on ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Exactement.
Et donc on lui fait bien remarquer. D'ailleurs, Joseph est là pour lui rappeler les règles.
Oui, il y a une espèce de trio qui va s'instaurer entre eux, entre le maître, l'esclave officiel qui est donc son espèce de majordome, et Thomas qui est l'employé, mais qui est dans une relation très ambiguë vis-à-vis de son employeur, dans la mesure où il en sait beaucoup plus que lui. Donc il est à la fois l'esclave employé et le maître professeur. Et de cette espèce de schizophrénie va naître un rapport pervers, finalement, un peu sadomasochiste entre eux, qui va aboutir à la rédaction d'un livre, finalement, pour s'échapper de cette situation-là.
Alors, puisque vous parlez de sadomasochisme, c'est vrai que le pauvre Thomas Terren, toute sa vie, a été un petit peu contrarié. Alors, à chaque fois qu'il a voulu réaliser des choses ou se donner du plaisir, hop, à chaque fois, son père ou sa mère arrivait dans sa chambre. Oui, je l'ai lu en long, en large, en travers, votre livre. Il n'y a pas de souci, je suis incollable. Je peux vous le dire, encore ce matin, j'ai relu les quelques dernières pages pour me remettre un petit peu dans l'ambiance. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne va jamais au bout des choses. C'est-à-dire qu'au moment où il va atteindre l'apogée, ben là, on l'arrête en plein milieu, quoi.
Oui, puis il est toujours là où on l'attend le moins, finalement. Il n'est jamais exactement ce qu'on attend de lui depuis l'enfance. Donc ça, chez lui, ça a provoqué une espèce de décalage qui fait qu'en permanence, il est un peu dans les marges de la société. Il n'a jamais réussi à s'intégrer ni dans la vie affective, ni dans le monde du travail, ni dans la vie sociale. Voilà, ça fait de lui une espèce de, à la fois de paria, de marginal, mais aussi de très symptomatique finalement de la société dans laquelle on vit.
Alors justement, je voulais juste vous dire, parce que vous posez une interrogation dans votre livre, vous rappelez que l'électricité, Thomas avait lu quelque part que le mot hébreu signifiant électricité était à l'origine un terme biblique se référant à la lumière nimbant le trône de Dieu. Alors en hébreu, électricité veut dire, ça se dit chashmal.
D'accord.
Donc voilà, maintenant vous le savez.
Ouais.
Peut-être que dans votre prochain livre, si vous pouvez marquer, voilà, Nathalie, étude de recherche.
Pas de problème, ouais, j'y penserai.
Alors, c'est vrai que cette relation donc, qui prend forme après toutes ces semaines, donc ce sont des rendez-vous réguliers qui ont lieu tous les vendredis. Donc Zabo va être plutôt doux, on va dire, on va s'attacher au personnage de Thomas Terren. Mais en même temps, il ne va pas le croire, surtout quand il va lui dire qu'il a vu tel ou tel film, telle ou telle pièce. Et le vernis, enfin, il y a des choses qui l'intéressent pas à Zabo. Donc il ne pourra pas s'afficher en société en disant oui, j'ai été voir telle ou telle chose. Non, il y a des choses qui lui sont réservées. C'est un domaine particulier. Et puis il y a d'autres qui sont réservées, on va dire, aux autres.
Oui, disons qu'entre eux, il va tout de suite naître une espèce d'ambiguïté du fait, voilà, que celui qui est le chef et qui paye finalement se met en position d'élève et celui qui donne l'enseignement, au contraire, lui est à la place de l'employé. C'est une situation qui est pas tenable finalement dans la durée. Mmh. Et en plus, il y a une espèce de jeu de séduction entre eux qui finalement va rappeler dans un premier temps à Thomas la relation que Rice, donc son modèle, a eu avec son modèle Schopenhauer, et il va se complaire un peu dans cette relation-là en se disant qu'il revit la vie de l'homme qu'il admire tant et dont il se croit le double. Et puis les choses allant un peu plus loin, cette espèce de tension latente dès le début va devenir véritablement intenable.
Or d'ailleurs, page 91, Thomas Terrell lui propose l'affiche suivante. Et l'affiche suivante, c'est le dernier film de Lucien Belmont, un drame. « Voyons voir », répondit Zabot après avoir longuement soupiré. Belmont a déjà réalisé 3 films, dont le premier, « La Belgique ne répond plus ». Alors déjà, je vous dis pas les titres. « A obtenu le Lion d'or à Venise il y a 6 ans. C'est un metteur en scène qui vient du théâtre, obsédé par la disparition de sa mère. « Dites-moi, j'y pense subitement. Mais vous ne croyez tout de même pas me berner en lisant Télérama ? Qu'est-ce qui me prouve que vous avez bien vu ce film ? Recopier des articles, c'est très facile après tout. Vous ne l'avez pas vu, c'est ça ? Bien sûr que si, je l'ai vu. » Non, non, vous n'avez rien vu du tout. Vous me dépouillez depuis le début parce que vous me prenez pour un crétin. C'est moi le petit enfant dans la tombe sous le panier de patates. Soyez raisonnable, monsieur Zabot. Je ne vous veux aucun mal et je me donne de la peine pour vous. Je travaille honnêtement. Vous ne l'avez pas vu, vous ne faites rien. Si, pas du tout, vous mentez, vous êtes odieux avec moi. Non, vous ne l'avez pas vu, j'en suis sûre. D'accord, je ne l'ai pas vu. Quoi ? Eh oui, c'est vrai ? Mais non, c'est pas vrai, je l'ai bien vu, votre foutu film. Mais quand je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors j'essaye autre chose pour voir, je ne sais pas, moi. Vous ne posez pas une question pour en connaître la réponse. Vous voulez m'entendre dire ce que vous voulez, rien, ce que vous voulez et rien d'autre. Oui, bon, vous avez peut-être raison, après tout. Vous avez peut-être raison. Bon, laissez l'affiche du film de côté. Je la verrai plus tard à tête reposée. Oui, c'est ça. Plus tard. En attendant, vous n'auriez pas quelque chose de plus léger, disons, de plus digeste, mettons pour l'apéritif, par exemple. C'est exactement ça. Alors à chaque fois, c'est des coups d'estocade que vous donnez entre les deux hommes, mais c'est non seulement un vrai rapport de force, mais j'avais l'impression d'être dans une cour de maternelle.
Oui, ils sont tous les deux complètement immatures, mais à des niveaux différents. Il y a celui qui est immature et puis qui est resté finalement l'adolescent parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a pas de famille, et celui qui au contraire a tout réussi, mais est resté tout aussi immature que le premier. Et donc, effectivement, de cette relation naît une espèce de jeu de ping-pong verbal entre deux gamins qui se chamaillent pour savoir qui est le plus fort, finalement, et qui pisse le plus loin un peu.
Allez, on va marquer une nouvelle pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Retrouvez toutes les news de votre radio sur le www.valleyfm.fr.
cher amoré. Ketap hachlama shlema yedidi ani vehadagim mitgagagim chazor hazman dohe. את מתחמקת יום יום מפסיעותך, השניות דושות ממך בלחישות מבטות. תני להתקרב לפני רדת יום. לא לא,
il est 11h25 et oui, ce matin, nous avons changé l'heure. Vous êtes toujours dans l'émission Bethel Vallée, l'émission des communautés juives de l'Est parisien de la Vallée de la Marne. Et ce matin, notre invité est tout simplement Michael Hirsch pour son roman qu'il a sorti aux éditions Ramsay au Micron. Alors nous continuons cette grande discussion jusqu'au jour où justement entre la relation entre Thomas Terren et Szabo, va un petit peu s'effiler au fil du temps. Et même vous racontez dans votre livre la sortie du livre, puisque finalement Thomas va sortir quelque chose de cette relation, il va un petit peu s'affirmer, va sortir un livre. Et donc la sortie du livre marquait également la rupture nécessaire, va un vendredi où Thomas ne se rendit plus chez Oresmus Szabo, son maître
Magyar,
en manipulation. Il ne dit rien, ne prévint pas, ne songea même pas à s'excuser. Il connaissait la musique, marketing de l'absence. Deux jours passèrent sans nouvelles, puis Joseph finit par laisser un message sur son répondeur, un message calme et froid. On eût dit que le valet savait exactement ce qui se tramait dans l'ombre. Il savait depuis le début que la trahison viendrait avec son lot de lâcheté et de dérobade.
Oui, donc il est dans cette espèce de confrontation intenable avec son employeur et finalement c'est une espèce de pulsion meurtrière qui va l'envahir. Il n'y a pas tellement d'échappatoire à sa situation. Il veut absolument se débarrasser de lui. Mais comme il n'a pas le courage évidemment d'aller jusqu'au bout et de passer à l'acte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un livre à la place. Ça va être le substitut finalement du meurtre. Et c'est marrant, l'autre jour je lisais le dernier roman d'Emmanuel Carrère là, qui vient de sortir, qui s'appelle Un roman russe, qui est magnifique et que je recommande à tous les auditeurs. Dans lequel Emmanuel Carrère dit « Écrire un livre, c'est toujours d'une certaine manière tuer quelqu'un. Ouais. » C'est vraiment tout à fait l'idée que finalement j'ai développée dans ce roman, quoi. Donc au lieu de tuer qui que ce soit, il va écrire un bouquin complètement incroyable sur donc un phénomène de société qui passionne pas les foules et qui pourtant devrait, parce que c'est vraiment quelque chose à la fois d'affreux et de très symptomatique de la société dans laquelle on vit, qui est donc le phénomène de la folie meurtrière. Ces gens qui du jour au lendemain, tout en étant des pères de famille, disjonctent, s'emparent d'un fusil d'assaut, se barricadent chez eux et tirent sur la foule. Il va donc écrire une espèce de nomenclature un peu à la fois intime et savante de tous ces phénomènes qui ont émaillé particulièrement l'histoire de l'Occident au XXe siècle.
Alors en même temps qu'il atteint une sorte de, on va dire, de réussite sociale, lui souffre. Il est malade.
Oui, lui, il a écrit ce livre pas finalement pour connaître la gloire. Il l'a écrit pour des raisons vraiment personnelles, c'est-à-dire pour se détacher de la personne
avec qui
il travaille.
Pour
se venger d'une certaine manière. Et puis, le livre va connaître un succès tout à fait inattendu, insoupçonné et très important.
Ouais.
Et du jour au lendemain, il va donc passer de cette espèce de sphère intime dans laquelle il s'était recroquevillé et qui est donc le Omicron du titre, au oméga de la célébrité, à l'explosion du pouvoir, des médias, de la foule. Et ça va être un truc qui va complètement le perturber parce qu'il peut pas passer vraiment d'un extrême à l'autre comme ça, sans intermédiaire. Et il va donc s'inventer une espèce de maladie psychosomatique, finalement, pour se punir d'avoir trahi ses idéaux premiers et d'avoir cédé aux sirènes des médias.
Excusez-moi, mais il serait pas un peu juif
C'est pas totalement impossible. C'est pas précisé dans le roman, mais c'est pas totalement impossible. Il y a cette espèce de masochisme latent chez lui, effectivement, qui rappelle quelque chose comme ça.
Alors justement, j'ai adoré aussi le rendez-vous qu'il a avec la journaliste de Libération dans le café, parce que quand il s'installe à la table, donc lui dans le café, on l'appelle Alex.
Voilà, c'est ça.
Et donc la journaliste arrive et demande Thomas Terren, donc ce fameux écrivain. Je connais pas, non, c'est pas qui c'est. Et puis lui, d'un seul coup, il vient s'installer à la table alors qu'il avait déjà commandé quelque chose. Et alors on lui dit, tiens Alex, prends ton café. Alors on dit, mais attendez, vous n'êtes pas Thomas Terren? Mais c'est cette sorte de quiproquo, voilà, tout le temps.
Personne ne sait vraiment qui il est, puis comme lui-même ne sait pas vraiment qui il est non plus, parce qu'il se balade sous différentes identités, il y a cette espèce d'effectivement de quiproquo permanent sur là où il se trouve, ce qu'il fait et qui il est véritablement.
Et elle lui dit, il vous a appelé Alex, j'ai pas rêvé. Lui demanda la journaliste, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien vous, Stéren? Oui, c'est bien moi, n'ayez crainte, c'est juste un vieux truc entre lui et moi. Une sorte, encore une fois, il y a un peu le côté James Bond qui ressort, enfin, James Bond de pacotille, parce que c'est vrai que, bon, étant fan de James Bond, je peux vous dire qu'il y a quand même la classe que Thomas Stéren n'a pas encore.
Il y a une phrase très importante dans le livre, c'est vraiment l'époque, elle est héros qu'elle mérite. Et
ça, voilà, c'est voilà. Clair.
Lui se prend pour James Bond, mais il atteindra jamais à la classe d'un Roger Moore ou d'un Sean Connery. C'est minable.
Et en même temps, c'est vrai que c'est moi je dirais pas que c'est un minable, c'est peut-être un loser quelque part, mais on s'y attache tellement.
Voilà, il est extrêmement exaspérant.
On a besoin de lui, quoi.
Il est exaspérant, il est attachant à la fois, il est très énervant, il est choquant, mais il a quelque chose finalement d'un peu fragile, d'un peu stupide, qui fait qu'on l'aime bien en définitive.
Voilà, c'est comme un doudou en fait.
C'est presque ça. Ouais.
Et puis un jour, comme ça, lui tombe, on sait pas trop, parce que déjà, je voudrais juste préciser que l'attaché de presse, donc de Thomas Stéren. Alors, la journaliste de Libération pense qu'elle s'appelle Faulkner. Mais en fait, Faulkner, enfin bon,
il y a tout un jeu voilà. À travers le roman sur l'identité véritable des personnages. Tout le monde utilise plus ou moins des noms.
Alors qu'elle s'appelle Hemingway.
Voilà,
Hemingway.
C'est ça,
ouais. Donc, voilà. Et donc, un jour, arrive, dans de ses eaux, on va dire, je sais pas si c'est un espion, si c'est, quelqu'un qui va demander, à Thomas Stéren de peut-être de se surpasser, de se dépasser et de réaliser pour cet homme quelque chose peut-être auquel il n'avait jamais pensé.
Il a donc publié un livre sur la folie meurtrière et il va se rendre compte, un peu malgré lui, que soulever un sujet pareil et en faire finalement un succès de librairie, c'est à la fois poser le problème de la responsabilité de l'artiste, ça c'était mon propos, mais pour lui c'est aussi le mettre en contact avec toute une faune hétéroclite qui a des ambitions et des objectifs pas toujours très avouables, et ces gens vont tenter de se servir de ses propos un peu irresponsables à leur propre fin. Donc il va tomber sur un type qui lui va lui proposer de venir faire des conférences un peu au Moyen-Orient. Voilà, c'est ça. Lui, on suppose que c'est plus ou moins un agent d'un réseau terroriste quelconque qui va donc lui proposer de venir galvaniser les foules du Moyen-Orient pour se faire sauter dans les bus ou pour lancer une guérilla urbaine, enfin quelque chose comme ça. Et si il se met à intéresser ce genre de personnage, il va aussi se mettre à intéresser les personnages donc antithétiques des premiers, c'est-à-dire plutôt des agents israéliens qui eux cherchent à infiltrer des mouvements voilà fondamentalistes.
Ouais. Alors, c'est vrai que il y a une drôle de rencontre qui se passe hein, dans le livre entre ce Hamid et Thomas. On a l'impression qu'on est sur des charbons ardents parce qu'on est là, on a envie de savoir, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'il va partir? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être qu'il va nous faire sauter des bombes, c'est pas possible. Et puis, d'un seul coup, on repart dans l'histoire et là, il rencontre, alors pas un agent du Mossad, excusez-moi, mais un agent de l'Institut.
Voilà, c'est ça aussi, c'est plus classe. Mossad, c'est un peu vulgaire.
C'est quoi que Mossad en hébreu veut dire institut, donc vous n'étiez pas très loin. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, on se dit, oula, à partir du moment où il y a des services secrets, des espions, des terroristes, peut-être Al-Qaïda qui se cache par là, on voit très bien l'Israélien qui arrive. Alors lui aussi, il arrive avec ses gros sabots, il fait style, je ne vous connais pas, je vous rencontre par hasard. Mais on est tombé sur la bonne personne et on va lui expliquer les choses, alors tout doucement au départ. Mais comme il y a cette maladie qui est, on va dire, un petit peu inventée, on va peut-être lui donner l'occasion, s'il veut se soigner, de lui donner le remède miracle qui n'existe qu'en Israël.
Voilà, exactement.
Ça aussi, hein.
Donc c'est une manipulation classique finalement dans les histoires d'espionnage, de services secrets. On voit très bien ça dans Les Patriotes d'Éric Rochand.
Oui.
Pour manipuler quelqu'un, il faut avoir une prise sur lui. Cette prise, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être connaître des choses inavouables sur lui et menacer de les révéler. Là, en l'occurrence, comme lui se croit malade, l'agent qui va l'approcher va se servir de cette espèce de paranoïa concernant la maladie pour le manipuler, s'en servir à ses fins.
Alors justement, alors il y a cette belle rencontre aussi avec. Alors il a un nom, on va dire un peu compliqué, puisqu'il s'appelle Yossi Mir Tenbaum.
Ouais.
Déjà. Hein. Alors pardon, donc c'est un dialogue entre Thomas et Yossi. Pardon, ces deux meilleurs éléments des recrues de l'université Al-Azhar. Qui ça, quoi? Mais votre nouvel ami, bien sûr, Hamid ou Faidi. Parce que Thomas Terren n'avait pas encore compris que Hamid pouvait être un agent.
Mais lui, il est complètement largué dans la vie, il comprend rien de rien. Les gens l'abordent, bon, il se laisse un peu faire, il sait pas trop à qui il s'adresse.
Il va un peu où le vent le pousse.
C'est une espèce d'électron libre, voilà, exactement, qui se saisit de l'opportunité quand elle se présente, sans vraiment se rendre compte des conséquences que ça peut avoir.
Alors, il lui dit, je ne comprends pas. Allez, monsieur Steren, cessez de faire l'enfant, je vous observe depuis un moment, il est parti maintenant, vous pouvez parler sans crainte. Écoutez, je connaissais même pas son nom de famille. Quel naïf vous faites, vraiment, c'est à peine croyable. Vous savez, chez moi aussi, il y a des gens comme vous. Vous savez comment on les appelle? Non. Des schmocks. Monsieur Steren, des schmocks. Je sens que c'est un peu péjoratif. Que vous a-t-il dit au juste? Il vous a proposé d'aller là-bas, c'est ça? Mais qui êtes-vous à la fin? Vous apparaissez là comme un fantôme, vous me traitez de je ne sais quoi, vous venez d'on ne sait où, et puis vous me demandez de vous répéter mes conversations? Ok, déclara l'homme tout en ôtant son manteau, qu'il posa sur ses genoux. Je m'appelle Yossi Mirtenbaum. Alors, on voit la classe tout de suite. On voit la différence entre les deux hommes. Il y en a un qui va franco, donc Hamid Afaidi. Et puis l'autre, alors on va s'installer. On voit déjà qu'il a une culture qui vient d'Europe de l'Est. Donc d'abord, on pose un petit peu toutes les pièces sur l'échiquier. Puis après, on attaque. Vous êtes content comme ça? Alors, disons que je travaille pour la sécurité de mon pays, notamment en ce qui concerne les réseaux européens. Satisfait, vous êtes quoi? Un espion israélien? C'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est bien ça? Dites, vous discutez avec un terroriste international sur un banc à côté de chez vous? Vous acceptez d'aller en Syrie pour galvaniser les foules et vous tombez des nues lorsque vous rencontrez un agent israélien? Bien évidemment, on en trouve tous les jours, à tous les coins de rue. Vous êtes un peu bizarre, hein, lui dit. Comment ça, un terroriste? Alors, bien évidemment, il commence à lui dire le front des Moudjahidines, et bien sûr, on en passe et des meilleurs. Alors, c'est comme ça que ça se passe, monsieur Steren. Qu'est-ce que vous imaginiez? Le chef du spectre, caressant un chat persan avec des gants en cuir, comme contre James Bond, roulant en Lotus amphibie? Vous avez été recruté, ce n'est pas une question d'argent, de duplicité, d'intérêt ou d'idéologie, c'est un petit peu tout à la fois, mais c'est essentiellement une question de confiance. La confiance, voyez-vous, c'est ce qui produit la meilleure collaboration. Est-ce que Oufaidi vous inspire confiance, monsieur Steren? Alors déjà, on voit tout le charisme d'un personnage qui arrive, et puis la cerise sur le gâteau. Alors là, pour ça, vous avez un don particulier. C'est que bien évidemment, comme Thomas Terren, je vous le disais tout à l'heure, hein, il est un peu poussé par le vent qui arrive, dont ses zooms, en tout cas, il va suivre. S'il est à l'est, il part à l'est, à l'ouest, ou au sud, ou au nord. Donc finalement, il se laisse convaincre par Yossi, et on lui donne un mot de passe. Parce que vous savez que pour entrer dans la charte et dans le règlement des espions, il faut un mot de passe. Alors, et puis on va rester quand même dans la pure tradition ashkénaze. On va pas choisir, je sais pas moi, on aurait pu penser Tafina de Shabbat. Non, non, ça va passe pas du tout. On va dire Strudel. Et là, alors Thomas Terren quand même réagit. Il lui dit, on le sent quand même qu'il dit, il est en train de me prendre pour un idiot là, à ce moment-là. Mais il ose pas le dire. Enfin, il ose pas le dire. De cette manière-là, donc il va essayer d'aborder le sujet par un moyen détourné.
Disons que lui qui se rêvait un peu en espion de cinéma, il se retrouve dans la vraie vie et c'est un peu décevant, voilà, tout ça est un peu ridicule, tout ça est un peu caricatural. Lui, il s'attendait à des James Bond girls,
ah oui,
à des gadgets, à des trucs incroyables.
Bien
finalement
sûr.
tout ça n'est qu'une histoire de strudel. Bon ben voilà, mais
finalement, mis à part le strudel qui va devenir un mot de passe, Thomas Terren reste un schmock.
Un peu, oui, c'est un personnage. Je le trouve très symptomatique finalement de l'époque dans laquelle on vit, de beaucoup de gens qu'on croise. C'est un type qui est complètement largué, qui comprend un peu rien à rien, qui passe d'un extrême à l'autre, politiquement, culturellement, mais qui reste sympathique quand même, voilà. C'est un peu Fernandel, voilà, il me fait penser un peu au Spoons, ouais, c'est un peu le personnage qu'on manipule, dont on fait ce qu'on veut, qui se laisse faire parce qu'il comprend pas toujours tout à la situation, quoi.
Alors, bien évidemment, la suite du livre vous entraînera vers de belles surprises. On va pas tout vous raconter parce que là depuis tout à l'heure, mon excitation et mon émotion prend le dessus sur ce devoir de réserve que je dois avoir. Mais finalement, Thomas Terren, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est possible d'aller lui parler? Moi, j'ai eu l'impression quelquefois qu'il pouvait être à n'importe quel coin de rue et qu'on pouvait aller lui rendre visite, quoi.
Oui, je pense que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, je me suis pas inspiré de quelqu'un véritable, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être nous tous. Finalement, c'est un peu une extrapolation cancéreuse de certains traits de mon propre caractère. Voilà, j'ai isolé des choses qui étaient vraiment pas très glorieuses chez moi.
Vous êtes un espion?
Non, pas du tout. Et puis je les ai grossis pour en faire un personnage entier. Et du coup, ça donne quelqu'un à la fois de complètement caricatural, mais de très révélateur. C'est un peu comme dans les comédies de Molière, finalement, si on regarde L'école des femmes ou Tartuffe, ou même l'avare, on se saisit pas d'un trait de caractère subtil pour produire de la comédie ou pour faire réfléchir le spectateur. On prend un trait, on le grossit énormément et on en fait à la fois un personnage qui est impossible. L'avare de Molière, c'est un personnage qui peut pas exister véritablement. Mais grâce à lui, les spectateurs se disent « je suis un petit peu comme ça » et
quoi
ça, ça
moi,
me permet de réfléchir.
Quoi que moi, quand on parle de l'avare de Molière, je vois tout de suite Louis de Funès dans le film.
Oui,
ah,
mais
qui Yves Montand derrière.
Mais même ce genre de personnage n'existe pas. Je connais des avares, mais c'est des gens qui ont un problème psychiatrique qui peut pas aller jusqu'à ce stade-là, c'est impossible. Mais la comédie permet de révéler finalement les travers de la société, de faire réfléchir le spectateur, d'édifier le lecteur. Et c'est un peu ce que j'ai essayé aussi de faire dans ce livre.
Alors Michael, c'est vrai que là, on est en pleine saison du Salon du Livre de Paris. Là, il y a encore 3 jours d'existence. Oui. 1 jour de moins que les années précédentes, c'est un petit peu bête. Parce que
c'est proportionnel aux ventes de livres, en fait. Je pense que les années où les livres se vendent moins, on retire un jour au Salon du Livre.
Ah d'accord, c'est pour ça. Est-ce qu'on pourra vous y voir? Est-ce qu'on pourra vous retrouver pour une signature, un petit moment comme ça en aparté pour discuter? Parce que c'est vrai qu'on laisse un petit peu l'auditeur sur la fin, mais je voudrais vraiment que cette fin leur soit propre, qu'elle soit à la hauteur de ce que vous avez écrit, parce que c'est vraiment un roman exceptionnel. Et moi, non seulement j'ai beaucoup ri, mais en même temps j'ai découvert plein de choses et je vous ai découvert vous, donc c'était très important.
Merci beaucoup.
Et je pense qu'il ne faut pas arrêter d'écrire.
Vous inquiétez pas.
Alors quand est-ce qu'on peut vous retrouver au Salon
Alors on peut me voir mardi soir à partir de 19h sur le stand Ramsay.
D'accord, voilà. Donc c'est où? C'est au milieu du salon
Alors l'emplacement exact, c'est E150 F151 pour les amateurs
non,
qui
mais
connaissent
c'est vrai,
le plan par cœur. Mais sinon, c'est renseigné à l'intérieur du salon, on peut trouver assez facilement.
Est-ce que vous avez déjà un projet de nouveau livre?
Le suivant est déjà écrit.
Ah!
Voilà.
Est-ce que Thomas Terren existe encore?
Non, ce sera très différent. Ça vous plaira, ceci dit, je pense. Ça joue pas du tout sur le même registre. Là, c'est un livre vraiment entièrement construit autour de l'ironie. Le deuxième sera beaucoup plus émotionnel, sentimental presque. C'est une espèce de grande saga familiale qui va de Paris à Tokyo et des années 1850 à nos jours. Autour d'un fil rouge qui est la disparition d'un tableau, un tableau que Chagall a peint en 1921 et que personne n'a plus jamais revu depuis la guerre.
En tout cas, je voudrais simplement rassurer les auditeurs et les lecteurs, c'est que non seulement il y a de l'action, il y a du punch, mais en plus il y a un peu de sexe, donc.
Très peu, mais bien placé. Voilà.
En tout cas, merci à vous, Michael, d'être venu ce matin.
Juste un dernier mot, j'ai aussi
Allez-y.
Un blog consacré
oui.
à ce livre, à la littérature en général, au monde de l'édition. Et voilà, les lecteurs éventuels peuvent m'y retrouver pour en discuter.
Allez-y, donnez
Donc l'adresse, c'est www.michaelhirsch en un seul mot, michaelhirsch.com.
Ben écoutez, merci à vous.
Merci.
Donc c'est Michael Hirsch, le livre s'appelle Omicron. C'est un roman aux éditions Ramsay au prix de 19€. Je vous assure, c'est le livre qu'il faut lire actuellement. On fait une toute petite pause musicale, on se retrouve après.